Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 21 février, au lendemain de la finale de la confrontation des quatre nations. Victoire du Canada par la marque de 3-2 en prolongation, but de Connor McDavid sur une passe de Mitch Marner qui a mis fin à ce match qui a été un classique des classiques. Je pense une rencontre qu'on va se souvenir pendant longtemps. Une intensité digne des grandes finales de la Coupe Stanley entre le Canada et les États-Unis. C'était un grand tournoi court. On en aurait pris plus, mais c'était un grand tournoi de l'excellent hockey qui a été disputé à Montréal et à Boston. Donc aujourd'hui, on va bien évidemment parler de tout ça. Écoutez, le match est terminé depuis quelques heures alors qu'on va parler de tout ça avec nos journalistes Guillaume Lepage et Jean-François Chaumont qui étaient du côté de Boston hier. Vous avez commencé, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de balado à peu près qui peuvent exister, entre autres Apple, Spotify, YouTube. Suivez-nous, comme ça vous êtes certain de ne jamais manquer le moindre épisode. On va reprendre le rythme habituel des mercredis à partir de la semaine prochaine, mais quand même les séries qui s'en viennent éventuellement. Et là, à partir de là, les balados, on vous en offre dès qu'on peut. Alors, comme je disais il y a quelques secondes, victoire du Canada hier, 3-2 contre les États-Unis, champion de la confrontation des quatre nations. Et pour discuter de tout ça, je l'ai rejoint en direct de deux placards de l'aéroport international Logan à Boston. Jean-François Chaumont, Guillaume Lepage. Salut les gars, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. On a trouvé une solution.
Oui, trouver une solution. Votre vol a été retardé ce matin. On devait enregistrer le balado en après-midi. Mais non, je vous ai... Je dirais bien tout frais ce matin, mais c'est pas du tout le cas parce que votre nuit a été plutôt courte. Vous avez quoi, combien d'heures de sommeil, les gars?
Trois. Mais on a couru un peu avec le trouble. Il faut dire quand même qu'on a quitté l'aréna à 2h30 du matin, mais on a poursuivi la soirée dans la chambre à Chaumont avec quelques consommations jusqu'à 4h30. Donc... On n'a que nous à blâmer ce matin.
Vous avez bu la même chose que John Cooper avait dans son verre, j'ai l'impression, lorsqu'il a rencontré les journalistes.
Exact. Mais c'était pas canadien, je pense, malheureusement.
Non, hein, c'était de la Sam Adams, quelque chose comme ça, dans le coin de Boston. C'est peut-être plus ça. Hey, les gars, on va faire ça rapidement parce que vous avez quand même un vol à prendre. Et merci d'être là ce matin pour faire un bilan de ce tournoi-là qui a été... Ma foi, on ne savait pas à quoi s'attendre exactement de ce tournoi-là. C'était une nouvelle mouture d'un affrontement entre les meilleurs joueurs internationaux. On a été servi et la finale a été la cerise sur le Sunday. Tout un affrontement qu'on va se souvenir longtemps entre les États-Unis et le Canada. Tout ça sur un fond politique. Il y a des gens qui disent qu'il faut garder la politique en dehors du sport. Parfois, c'est impossible. Je pense que c'était le cas pour ce match-là. Parlez-moi un peu, avant de tomber dans le match, comment c'était l'ambiance, tout ce qui régnait, avec tout ce qui se passait sur et hors de la patinoire.
Ben, on sentait que oui, c'était plus qu'un match qui se déroulait sur une patinoire. L'équipe américaine, en matinée, Donald Trump avait parlé aux joueurs de l'équipe. Noah Hanifin avait dit qu'il souhaitait gagner pour son pays, gagner pour son président. Les joueurs du Canada essayaient de se tenir un petit peu loin de cette polémique politique entre les deux pays. Mais après le match, on a ressenti une bonne dose d'émotion. Il y a John Cooper qui disait qu'on comprenait la symbolique, que oui, c'est une victoire à l'intérieur du vestiaire, c'est une victoire de 23 joueurs, mais que c'était également une victoire pour un peu plus de 40 millions de Canadiens. L'ambiance, c'était classique du TD Garden, beaucoup de USA, USA, USA. Il y avait quand même une bonne portion de gilets canadiens, de chandails rouges dans les gradins. Mais au TD Garden, si le Canada marque en premier, l'ambiance se refroidit un petit peu plus rapidement. Donc, mais malgré tout, là, c'était tout un match de hockey. Puis on va en parler un petit peu plus longuement, là, mais... Tu sentais qu'il y avait une énergie particulière à l'intérieur de l'édifice.
On ne perdra pas de temps, là, vous êtes quand même pressé, donc on va tout de suite se mettre à parler du match. C'est la passation du flambeau, vraiment, ce match-là. Le but de Connor McDavid qui donne la victoire au Canada en prolongation sur une passe de Mitch Marner. C'est la nouvelle génération d'équipe Canada qui s'en vient avec un Sidney Crosby qui regarde tout ça, qui avait marqué le fameux but à Vancouver. Voyez-vous beaucoup de similarités entre ce qui s'est passé? Même si c'était pas bon, c'était pas les Olympiques, là, je pense que McDavid a dit que le but de Crosby était peut-être un peu plus important, mais c'est quand même, les similarités sont fortes entre cette passation-là du flambeau.
Ben oui, je pense que c'est impossible de ne pas y penser. Le 2010, c'est Sidney Crosby qui marque le but en or. C'est une victoire de 3-2 contre les États-Unis en finale. 15 ans plus tard, sur une scène différente, c'est Connor McDavid qui marque le but gagnant en prolongation. Victoire de 3-2 contre les États-Unis. Donc, il y a quand même plusieurs éléments qui se recoupent. Mais Connor McDavid a été le premier à le dire. Moi, mon rêve, mon souhait, c'est de marquer un but en or à la Crosby l'an prochain, aux Jeux olympiques de Milan, en Italie. Crosby lui disait, écoute, ça ne pouvait pas arriver pour une meilleure personne. On connaît toute la pression que McDavid peut avoir sur ses épaules. Crosby disait qu'il peut se placer dans ses souliers, comprend exactement ce que McDavid peut ressentir. Donc, la symbolique était forte de voir Crosby célébrer sur la glace avec son dauphin, si on veut, un autre prodige, Connor McDavid. Mais rapidement, on plaçait l'objectif pour l'an prochain, 2026.
On remontait à la barre pour 2026. Ouais, puis McDavid n'avait pas un grand match, hein, soyons francs. C'était pas, ça a été difficile pour lui dans la rencontre. Je sais pas si la glace n'était pas très belle au TD Garden, mais on dirait que ça facilitait pas les joueurs habiles, les beaux jeux, là, tout ça, c'était difficile. Puis McDavid en était un qui payait. La preuve, c'est que John Cooper a modifié ses trios durant la rencontre, ce qui va avoir au final donné la combinaison qui a donné le but gagnant.
Ouais, ben, par rapport à la glace, ça, c'est une question qui revient souvent au TD Garden en séries éliminatoires. Souvent, les adversaires vont mentionner ça comme étant un problème. Connor McDavid, on s'en parlait, on dirait que la rondelle ne collait pas du tout à son bâton tout au long de la soirée. Chaque rondelle qui passait près de lui l'échappait, n'était pas en mesure de prendre le contrôle. Puis finalement, ben, trouve le moyen en prolongation, écoute, complètement oublié dans l'enclave, là, ça pardonne pas. Puis c'est quand même parce que je me souviens d'une occasion, je pense que c'était en deuxième période, Connor McDavid s'est retrouvé dans l'enclave en bas des oreilles, a raté son tir. Puis j'ai dit à Jean-François, j'ai dit, il n'y aura pas deux occasions comme ça dans ce match-là. Finalement, ben, c'est arrivé en prolongation, a été complètement oublié par Austin Matthews. Puis tu sais, un McDavid que tu laisses seul aux oreilles, avec du temps puis de l'espace, ben ça pardonne pas. Puis ça a été un beau moment, je pense, pour les partisans canadiens. Là, tu sais, on parlait de la foule, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de chandails rouges dans les estrades. Ça s'est rapidement vidé par la suite. Il restait juste du rouge pour les célébrations là, du Canada. Mais ça a été un moment quand même dont on va se souvenir, même si c'est peut-être pas à la hauteur des Jeux olympiques et tout ça. Ce tournoi-là va quand même avoir sa petite place dans l'histoire. On va se souvenir de ça comme le fameux retour des meilleurs contre les meilleurs sur la scène internationale. Là, ça donne le ton pour la suite des choses.
On est passé de un tournoi, justement, qu'on n'était pas certain ça allait être quoi, à un des matchs les plus importants de l'histoire du Canada par sa symbolique en l'espace d'une semaine. c'est quand même pas rien ce qui s'est passé dans ce tournoi-là. Vas-y, oui.
Tu parlais, Nick, du contexte politique, puis on dit souvent, laissons la politique en dehors du sport, mais hier matin, là, dans les coulisses du TD Garden, c'était vraiment, vraiment politique. Toutes les questions étaient par rapport à la discussion qu'il y avait eu avec Donald Trump. Et faut pas oublier que le matin même, avant même cet appel-là téléphonique dans le vestiaire des Américains, ben, Trump avait envoyé un message sur son réseau social disant, parlant du Canada comme du 51e État, du premier ministre Justin Trudeau comme le gouverneur de l'État du Canada. Fait que, tu sais, ça a comme donné le ton à la journée, puis on sentait que ça il y a eu un build-up quand même jusqu'au match. Ouais. Puis
écoute,
je pense que c'est...
Si ça avait été
c'est peut-être ce qui a ajouté à la réaction canadienne après ça.
Si ça avait été de la lutte professionnelle, ça aurait été de la promotion là, pour vendre le combat... à la Eddie Richmond au Québec ou peu importe, nommez-les, mais vraiment, ça a été ça. Malheureusement, c'est pas ça. Il y avait beaucoup d'enjeux. John Cooper en a parlé un peu après le match. John Cooper, qui est toujours super intéressant, a parlé un peu de comment les Canadiens avaient vécu ça, cette pression-là. Oui, tu veux te faire une bulle autour de toi, mais parfois, c'est impossible un peu. Cooper, qu'est-ce qu'il en disait là-dessus?
Ben écoute, Cooper était très conscient qu'il y avait justement, c'était un match qui représentait plus qu'une victoire de 3-2 entre le Canada et les États-Unis. Puis c'est souvent la façon canadienne, c'est la gentillesse, c'est la modestie. Mais je pense que la gentillesse a pris un petit peu le bord quand le premier ministre Justin Trudeau, premier ministre et non pas gouverneur, écrit sur un gazouillis comme quoi, bien, vous pouvez pas prendre notre pays, vous pouvez pas prendre notre sport national. Trudeau et Cooper n'ont pas tenu le même discours. Le Cooper restait quand même calme, imagé, mais c'était bien aussi de l'entendre dire qu'il souhaite que cette victoire-là va inspirer les Canadiens. Il a parlé de jeunes filles, de jeunes hommes qui regardaient ce match-là, puis il a vraiment insisté sur le fait que on parle pas de 23 joueurs qui venaient de triompher, mais bien 40 millions. Que c'était une victoire contre le voisin, contre les États-Unis, puis qu'il arrive à un moment dans l'histoire où l'allié historique, bien, il y a des tensions avec ce pays-là. Donc, c'est... Même
ça ne pouvait qu'être dans le sport, ça serait correct. Là. C'est ça l'affaire.
Oui, puis on dit ça, tu sais, le bon vieux cliché, c'est de dire qu'on doit garder la politique à l'extérieur du sport. Mais quand dans le camp américain, Bill Guérin invite le président américain et que le président américain parle aux joueurs et qu'il leur parle de golf, non pas de hockey, le matin même, t'as beau dire que tu veux pas inviter la politique, bien oui, elle rentrait à l'intérieur du vestiaire.
On va lâcher le côté politique, on va revenir sur le côté sur la glace. Il y a un joueur qui avait énormément de pression, c'est Jordan Binnington, connaissant un tournoi très moyen. Il avait laissé rentrer, je vais reprendre vos termes, messieurs, quelques crotons. Mais hier, il a été sublime, Binnington. À Boston, on doit commencer à le lailler. Puis pas à peu près Binnington, parce qu'il avait fait le même coup aux Bruins en finale de la Coupe Stanley en 2019 dans le match numéro 7. Binnington, on l'avait dit dans le dernier podcast, on dit cette finale-là va se jouer sur deux choses, les blessés puis la performance de Jordan Binnington. Il a été à la hauteur. Êtes-vous surpris de l'avoir vu se lever comme ça dans un tel match? Surtout en prolongation, il a été incroyable.
Oui, oui. Honnêtement, en prolongation, avant même le début, on se parlait sur la galerie de presse puis on se disait, dans un match aussi serré, dans un moment aussi important, c'est souvent le gardien qui fait la différence. Puis on aurait été plusieurs à placer notre vieux 2$ sur Connor Hellebuyck dans cette situation-là parce que, oui, Binnington a été bon pendant le match, mais des fois, c'était une aventure. On a vu, tu sais, je disais à Jean-François puis à Anthony Marcotte qui était assez à côté de nous, c'était un bel arrêt pour une frousse. C'était toujours, même pendant le match, là, c'était vraiment des hauts et des bas.
Même quand ça va bien, Binnington avec les Blues, c'est comme ça qu'il est de même dans le filet. C'est jamais parfait. Là, on est loin de Carey Price.
Exact. Exact, il inspirait pas la confiance là, que Carey Price inspirait à l'époque. Mais en prolongation, ça a été complètement incroyable. Les arrêts qu'il a fait devant Austin Matthews, un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale, sinon le meilleur franc-tireur. Des tirs à bout portant de l'enclave, le retour à Brady Tkachuk, qui n'a pas été comptabilisé comme un tir, soit dit en passant, mais je serais vraiment curieux de voir la trajectoire de la rondelle parce que c'est un tir qui quand il a glissé et il a volé Brady Tkachuk de la mitaine, c'est pas une chance à prendre non plus de se dire ouais, « c'est pas cadré, j'essaierai pas de faire l'arrêt », mais vraiment... Binnington a été sensationnel, puis après le match, il disait, tu sais, les critiques font partie du sport, je sais qu'il va toujours avoir des doutes à mon sujet, mais je pense que ce qui fait sa force, c'est qu'il est capable de s'élever au-dessus de ça, puis d'être capable de rejeter ça du revers de la main, puis de se concentrer sur son travail, parce que, tu sais, même hier, pendant le match, après les buts, après des arrêts... où il paraissait chancelant, la foule se moquait un peu de lui. On y allait de chant de Jordan, puis on essayait de le déconcentrer, de jouer dans sa tête. Puis, tu sais, il y a cette force-là d'être capable de livrer la marchandise dans les moments importants. Puis c'est ce que disait John Cooper après le match. Il disait qu'il n'a jamais songé à effectuer un changement de gardien, que ce soit pendant un match ou entre les matchs. Il dit « Mon plan, c'était d'y aller avec un homme, puis Jordan était mon homme, puis je savais que dans un grand moment, il était capable de se lever, puis il a donné raison hier en prolongation. » Et je vais terminer avec la phrase que John Cooper a prononcée en tout dernier avant de quitter le podium. Il dit « Il a gardé le meilleur pour la fin, puis c'est ça que les gangs en font. » Puis Jordan Binnington, ben mine de rien, a son trophée de la confrontation des quatre nations. Peut dire qu'il a eu son mot à dire en finale pour aider le Canada à battre les États-Unis. Donc, son nom est encore dans les discussions pour l'an prochain aux Jeux olympiques. Fait que,
c'est ça que j'allais vous demander. Ça fait-tu de lui favori l'année prochaine, selon vous?
Ah, peut-être pas le favori, mais son nom est encore là. T'sais, si hier, il avait donné 4 buts, le Canada s'incline... Avec le tournoi qu'il a connu, je pense qu'on a peut-être des doutes, mais finalement, ben, prouve qu'il est capable de performer sous pression. Donc, c'est certain qu'il faut le considérer dans moins de 12 mois pour les Jeux de Milan.
Là, je pense que c'est 8 minutes en prolongation lui donne un avantage. Il y a déjà un patin pratiquement sur la glace à Milan. Il va être difficile. Ça va rester difficile de déloger Jordan Binnington.
Ça va être le même groupe d'entraîneurs à Milano Cortina. Oui, c'est ça. J'ai un Cortina de Pesaro. C'est ça, oui. Milano Cortina. Faut dire ça. Milan Cortina, en tout cas, je vais appeler le comité olympique pour être certain. mais ça va être le même. Ça va être le même personnel d'entraîneur. Ça va être à 90% probablement les mêmes joueurs. À quel point cette victoire-là, ce qu'on a vécu comme équipe, c'est. Gage de succès, selon vous, pour la préparation pour les Olympiques?
Ben, c'est un avant-goût. Est-ce que c'est gage de succès? On verra. La formation américaine restera aussi redoutable en 2026. Il va y avoir d'autres pays aussi qui vont venir mêler les cartes. Mais c'était une très bonne audition. Les éléments forts, le noyau de l'équipe canadienne, Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Sidney Crosby à 37-38 ans l'an prochain... À la ligne bleue, Cale Makar, Devin Taves. En finale, Joshua Morrissey était malade, était absent. Mais comme tu disais, Nick, je pense qu'à 90%, on va revoir la même formation. Peut-être que Brad Marchand, qui hier avait le grand sourire, disait qu'après le match, il parlait avec Sidney Crosby. Les deux se considéraient chanceux de vivre un tel moment puisqu'ils vieillissent. Est-ce que Marchand va avoir sa chance encore l'an prochain? On verra. Puis même Crosby disait, je regarde dans... à côté de moi, puis il dit, les jeunes sont tellement bons, tellement rapides, qu'il dit, j'aurais pas le choix de me battre pour ma position au sein de cette équipe. Ça, c'est la modestie oui. Sidney Crosby, là. On peut déjà coudre un C sur le 87, ce sera lui encore une fois le capitaine.
Mieux de le mettre en avant du chandail, par contre, c'est...
Oui, tu le places toujours devant. Mais tu sais, c'est ce que John Cooper disait. Il voulait voir aussi à quoi ressembler l'équipe. Un mot qui revenait souvent aussi, c'est que les joueurs ont laissé l'ego à la porte. C'est que même si c'était un paquet de joueurs étoiles, ils avaient chacun un rôle. Puis c'est en plein ça aussi que Brad Marchand disait. Il dit, on n'a pas nécessairement assemblé l'équipe la plus talentueuse. On a assemblé une équipe pour gagner. Puis Guillaume a écrit à ce sujet-là, il y avait 15 gagnants de la Coupe Stanley au sein de l'équipe canadienne, 15 en incluant chez Théodore, qui lui s'est blessé au premier match
oui,
contre
exactement.
La Suède, si ma mémoire est bonne. Il y avait vraiment une identité forte de joueurs qui ont déjà gagné. Donc, dans les moments de grande tension, de pression, ils savent comment réagir. Puis Jordan Binnington, c'en est un aussi, là. On le disait, mais match numéro 7 en 2019 à Boston avait donné un seul but, victoire de 4-1. Puis Binnington, même s'il n'a pas connu un tournoi parfait, bien dans les moments clés, il était absolument présent.
Je veux parler un peu de la formation américaine, bon, qui s'est battue jusqu'à la fin. Là, on encense le Canada, mais il reste que c'était à un but de donner aux États-Unis peut-être la troisième plus grande victoire de son histoire après celle de 80 et celle de 96. Hein, en tout cas, c'est comme ça que je classe ça. On avait parlé des blessures, puis ça a apparu. Hein, Charlie McAvoy n'était pas là. Matthew Tkachuk a joué en première période, puis c'était tout. Tkachuk qui s'est blessé plus tôt dans le tournoi. J'ai hâte d'avoir des nouvelles parce que Brady avait pas de l'air très, très optimiste dans son point de presse après le match au sujet de Matthew Tkachuk. À quel point cette équipe-là, oui, il y avait des blessés du côté du Canada, mais j'ai l'impression que chez les Américains, ça a coûté cher. Ça a coûté peut-être plus que... Ça a été plus coûteux pour les Américains que pour le Canada.
Bon, honnêtement, ce match-là avec un Charlie McAvoy à la ligne bleue américaine et un Matthew Tkachuk au sommet de sa forme, ça aurait pu être différent parce que McAvoy, dans le premier match en ronde préliminaire, là, ça a été le rock à la ligne bleue, à la ligne bleue américaine. Là, bon, le rock. Je dirais celui qui a amené le jeu le plus physique de la brigade américaine. Donc ça, oui. Ça aurait pu faire pencher la balance dans un match aussi important que la finale. Tu sais, si ces deux équipes-là se retrouvent l'an prochain puis que tout le monde est en santé, ça va donner tout un duel, mais j'ai l'impression que les États-Unis étaient favoris sur papier pour une raison, puis c'est quand tu assembles tous les morceaux, il y a très, très peu de faiblesses dans cette équipe-là. Écoute, un Brock Faber, on en parlait, moi puis Jean-François, au début du tournoi, j'ai écrit un papier sur lui en disant, tu sais, c'est le plus jeune à la brigade, à la ligne bleue américaine. Puis j'avais pas de grandes attentes par rapport à lui. Je me disais, bon, ils vont lui donner de l'expérience puis tout ça. Puis finalement, ça a été le duo shutdown, le duo défensif de cette équipe-là. Les Brock Faber, Jacob Slavin ont été sensationnels défensivement. Ça a été...
Slavin, à un moment donné, donc, là, aurait peut-être pu être dans la conversation pour le titre de joueur le plus utile, tellement défensivement, il a été incroyable dans ce tournoi-là.
Ouais, puis c'est de bonne augure pour les Américains l'an prochain. Tu sais, après le match, eux aussi avaient les yeux tournés vers les Jeux Olympiques. On disait déjà que cette défaite-là va nous servir de motivation pour ce qui est à venir pour le prochain tournoi. Les Américains disaient qu'ils avaient soudé des liens très, très forts en l'espace de quelques jours. On sentait vraiment qu'on formait une équipe très, très tissée serrée. Le résultat, écoute, une défaite en prolongation en finale, ça, on passait très près d'accomplir l'objectif qui s'était fixé. Donc, pour la suite des choses, je pense que c'est très encourageant là, du côté des États-Unis.
Mais est-ce que vous pensez qu'on va avoir tiré quelques leçons? Écoute, quand Brad Marchand te dit après un match, vous devriez peut-être arrêter de parler, là, parce que ça peut te revenir d'en face à un moment donné, on sait à qui il parle au Tkachuk, entre autres. Quand Brad Marchand te dit ça, c'est-tu quelque chose que tu dois retenir puis appliquer? Parce que c'est vrai que les Tkachuk ont été... On a donné le show, du côté, après les matchs, puis pendant les matchs aussi, au début du premier match contre le Canada. Mais est-ce que ça a servi les Américains à long terme? Je suis pas certain. Pensez-vous qu'on va apprendre de ça?
Apprendre, c'est un grand mot. Je pense pas que tu peux changer non plus l'ADN de Matthew et Brady Tkachuk. Ils vont garder la même attitude, à mes yeux. Ils vont rester bruyants, ils vont parler, c'est ce qu'ils aiment faire. Oui, Brad Marchand peut lancer des conseils pour les deux frères, mais est-ce qu'ils vont réellement les écouter? On verra, mais il ne faut pas oublier, là, ils passent à un centimètre aussi, là, les Américains, de gagner ce match-là. Brady a probablement été le meilleur attaquant de l'équipe américaine, mais s'il y a un bémol, par contre, à ce parcours-là, qui était court, 4 matchs seulement... Les canons offensifs des États-Unis, Jack Eichel, Austin Matthews. Matthews a été bon en finale. Jack Eichel, Austin Matthews, Jack Hughes étaient moins bons que Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Sidney Crosby.
Kyle Connor, j'ajouterais ça à la liste.
Oui, Kyle Connor qui a été rayé de la formation. Puis déjà, là, c'est dans un an, il faudrait envoyer l'adresse de l'aréna à Milan pour Jack Hughes, parce qu'il n'a jamais connu où était le TD Garden, où était le Centre Bell. À mes yeux, on s'en parlait souvent, là, Guillaume, pendant les matchs. Guillaume et moi, Hughes a été une grande déception. Jack, je parle.
Jack.
Parce que Quinn, lui, est resté à Vancouver.
Puis là, c'est l'autre chose. Dans un an, est-ce que Quinn va être là? Qu'est-ce que ça change?
Quinn Hughes sera présent, puis si tu
Non, non, mais
dois...
dans l'impact, oui, il va être présent.
Ah, ben oui, il va avoir un grand impact.
On parle des absents chez le Canada. Dans le premier match, Makar n'était pas là, mais Quinn Hughes n'a pas été là du tournoi pour les Américains. Ben
Quinn Hughes prendra la place d'un Noah Hanifin ou même d'un Adam Fox. Il n'y a aucun doute pour moi. Mais en finale, le Canada joue aussi sans Joshua Morrissey. Donc, c'est Joshua Morrissey.
Et chez Theodore.
Mais Thomas Harley s'est avéré une. Sans être une révélation, une quoi que ce soit, ouais, une découverte. Harley a très, très bien géré le moment puis la nervosité. C'était quand même pas facile et évident pour lui comme mission. Puis dès le début du match, tu le sentais en confiance.
Quel âge Harley? 22 à peu près?
22, 23 probablement. Ah, c'est intéressant parce que... Je ne l'ai pas sous les yeux, mais...
À Dallas, il joue derrière Miro Heiskanen. Donc, tu sais, moins de pression, tout ça. Puis là, de le voir sur la grande... 23 ans, va avoir 24 ans le 19 août prochain. Joue derrière Heiskanen, donc se retrouve pas nécessairement dans les grandes situations. Là, Heiskanen est blessé. T'sais, si je suis les Stars de Dallas présentement, puis je vois Thomas Harley faire comme ça sur une telle scène, ça me rassure un peu pour la fin de ma saison, tout dépendant quand Heiskanen va revenir, parce que c'est quand même une blessure importante. La saison qui recommence bientôt va recommencer dès samedi. Il me semble que ça va comme... Disons qu'il y a certains matchs qui vont être plus lents. Au niveau du rythme, là, il va falloir baisser nos attentes de certaines rencontres. Mais vous attendez à quoi comme impact pour ces joueurs-là qui se sont défoncés pendant deux semaines, qui vont ramener des bobos, mais qui en même temps ont joué du hockey de série avant le temps? Vous attendez à quoi que ça ait, à quel type d'impact ça va avoir pour ces joueurs-là quand ils vont retourner dans leur club?
On s'en parlait hier soir. Ça change quand même la donne. Un Charlie McAvoy blessé pour on ne sait pas combien de temps du côté des Bruins de Boston qui sont impliqués dans la course aux séries, c'est une lourde perte. Du côté des Sénateurs, Brady Tkachuk, on a parlé de son frère qui est ennuyé par une blessure, mais lui aussi n'était pas à 100%. Je serais surpris de le voir samedi contre les Canadiens, quoique Brady Tkachuk... Je pense que... Ben c'est ça. S'il veut jouer, va décider de jouer, mais... Tu sais, il y a les blessures, mais il y a aussi, je pense, ça a été intense, là. Ça a été 12 jours. Il y a eu du voyagement difficile. Difficile, je le mets en guillemets, là. Il y en a qui ont eu de pires itinéraires vers Boston, mais ça n'a pas été facile. Ça a été du hockey intense, ça a été du hockey dur. Les mises en échec, tu sais, Drew Doughty, hier, qui se fait renverser par Brady Tkachuk, ça me semble pas être des coups là, qui sont faciles à absorber puis qui laissent pas de traces. Donc, je suis curieux de voir comment ces joueurs-là vont revenir aussi au niveau émotif. Là. Tu sais, de jouer un match...
Il y a un down
qui se compare... Ben, c'est ça. Tu pars d'un match qui se compare à un match 7 de la finale de la Coupe Stanley devant une foule en feu, puis tu te retrouves deux jours plus tard à jouer à Canada contre les Canadiens qui sont presque sortis de la course aux séries. La motivation est peut-être moins là, est peut-être moins au rendez-vous. T'sais, j'ai hâte de voir comment on va être capable de repartir la machine. Puis est-ce que ces joueurs-là vont obtenir un ou deux matchs de congé avant de reprendre l'action? Parce que ça a été des entraînements, ça a été. Ces gars-là n'ont pas décroché. Ça a été le rythme d'une saison, mais avec du hockey de série. Puis là, tu recommences le rythme de la saison jusqu'au mois d'avril. Donc. Ça va être intéressant parce que c'est pas une situation dans laquelle ces joueurs-là se retrouvent très souvent là, dans la Ligue nationale. Donc.
C'est différent de la pause du match des étoiles un peu. Quelques
peu. Ouais.
La saison, bon, on écoute la saison qui recommence ce samedi. Canadien, tu disais qu'il est à Ottawa, donc on va suivre ça. J'ai hâte, écoute, retour au hockey, quelques éléments à suivre. On va suivre la course au record d'Alex Ovechkin d'ici à la fin de la saison, tout ça.
La date limite des transactions aussi.
La date limite des transactions qui s'en vient. Puis soudainement, on va être en séries éliminatoires. Ça va aller très vite. Donc, on va avoir en masse de temps pour en parler. Semaine prochaine, d'ailleurs, on va revenir. Justement, on va peut-être plus tracer un peu ce qui s'en vient pour le prochain mois d'ici à la date limite des transactions. On va faire ça ensemble. On va aussi recevoir les meilleurs espoirs du prochain repêchage de la LNH qui vont être avec nous en studio pour la tournée annuelle. Donc, quelques bons d'ailleurs cette année, Guillaume, Caleb Desnoyers, entre autres, qui retient l'attention de plus en plus. Donc, on va parler de ça au prochain épisode avec vous, messieurs, mercredi prochain. Mais d'ici là, je vous laisse aller dormir dans l'avion. Parce que, quoique Boston ou Montréal, vous levez puis vous ratterrissez là, à peu près.
45-50 minutes.
C'est 45 minutes, mais pour ça, il faut que l'avion décolle. Et là, au moment où on
a eu
parle,
un autre retard,
on reçoit un autre message comme quoi on est retardé.
Bon, ben, voulez-vous continuer à parler de hockey ou
on pourrait continuer, mais on va aller jaser avec les collègues, là, Luc Gélina, François Gagnon, tout ça. On va aller réinventer le monde.
Ben oui,
je vais aller chercher un autre café, puis je vais en offrir un aussi à Guillaume, parce qu'il y avait quand même une humeur typique de Guillaume le matin. Oui, et de Guillaume qui a fait dodo pendant 2-3 heures.
C'est parce que là, débrancher un câble USB-C pour reploguer dans la prise USB en se disant que c'est différent, ça m'a titillé légèrement. Mais bon, ça, c'est les capacités technologiques de mon collègue Boomer, là, qui est de 42 ans. Là.
Les légendaires.
44. Mais tu sais, il y a quand même un avantage aussi à un âge, un petit peu d'expérience. Hier, on dîne, sort du dîner, croise une boutique où ils vendent des produits alcoolisés. Puis j'ai la sagesse de dire à Guillaume, j'ai le sentiment qu'on n'aura jamais le temps de décrocher après le match. On risque de sortir du Teddy Garden dépassé 2 heures du matin. Et qu'est-ce qui est arrivé hier? On a quitté le Garden à 2h30. Et qu'est-ce que le vieux qui a de la misère à plugger une prise USB-CD-EF, là, ben, il y avait quand même de la bière dans le frigidaire, puis le grand de 6 et 4 souriait hier soir, contrairement à ce matin.
Contrairement à ce matin. Hey, les gars, merci d'avoir été là. Bravo pour votre couverture à la course, ce sprint d'une semaine et demie de couverture.
Ben oui, Nick, puis en plus, on est rendu des vedettes du web, là.
Ben oui.
On a
ben
des
oui.
belles vidéos là, depuis le début de cette confrontation-là.
Ils vous ont forcé à vous peigner, c'est quand même pas rien, là, contrairement à ce matin. Là, fait que c'est la différence. D'ailleurs, là,
j'ai reçu une commandite aussi, le coin des petits m'a approché puis pour des vêtements. Parce que Guillaume a l'air de mesurer 9 pieds 2 à chacun des vidéos. Bon, on va aller chercher un autre café.
Donc tout ça, c'est à voir sur le site de lnh.com. Vos vidéos, vos textes. J'invite les gens à aller consulter ça. Là. Le site est rouge ce matin. Tapisside rouge avec la victoire du Canada. Suivez-nous aussi, regardez les réseaux sociaux. On a beaucoup, si vous aimez, photos, vidéos sur notre compte Instagram. Vous allez trouver tout ça sur LNH, barre de soulignement FR. Donc, merci les gars. Et on se repart mercredi prochain. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et on se reparle très bientôt.